sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée? Quelle heure est-il?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Bonjour à toutes et à tous. Il y a eu un petit couac de micro, mais vous êtes bien sur Radio Barthas, tout va bien. Il est midi et des poussières dans le sud de la Lozère et c'est l'heure pour ce petit moment radiophonique à passer ensemble. Moment dédié à l'actualité et aux paroles locales. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Alors ce dimanche, nous serons le 17 mai, ce sera la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Une journée de sensibilisation et de prévention pour agir contre la violence sous toutes ses formes, qu'elle soit physique, psychologique, sexuelle, médicale, sociale ou encore institutionnelle. Le 17 mai a été choisi comme date symbolique pour commémorer la décision de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui date du 17 mai 1990, décision dans laquelle l'homosexualité cessait d'être considérée comme une maladie mentale. Et oui, c'est fou de réaliser que ça date de si tard que ça. Et donc, en prévision de cette journée, Radio Barthas joint sa voix à toutes celles et ceux qui agissent contre les violences et les discriminations et qui militent pour la pleine compréhension et reconnaissance des droits des personnes LGBTQIA+. Et c'est le cas notamment du Conseil départemental d'accès aux droits de Lozère qui organisait le 3 avril dernier à Mende un colloque pour aborder les enjeux liés aux droits des personnes LGBTQIA+. J'y avais rencontré Thomas Cruz-Carrel qui est intervenant éducatif et juridique au CDAD. C'est lui qui était à l'initiative de l'événement et il m'expliquait pourquoi il avait voulu mettre en place ce colloque. On l'écoute, Thomas Cruz-Carrel.
C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. J'avais envie depuis déjà un petit moment de créer quelque chose autour de la thématique des personnes LGBTQIA+, et que ce soit dans mes engagements personnels ou bien au sein de mon travail, j'ai eu pas mal de demandes d'institutionnels ou de salariés de divers secteurs sur des questions assez particulières autour des personnes LGBTQIA+, en termes de droits au sens large, en termes de législation, en termes d'accès à la santé. Donc on s'est dit que ça pouvait être... intéressant.
Et donc ces personnes qui ont manifesté leur intérêt, est-ce que tu peux préciser peut-être le type de structure ou de...
Ben, on a eu un petit peu de tout en réalité, de l'institutionnel étatique, on a eu milieu hospitalier, personnel de soins, personnel du milieu socio-éducatif, médico-social, de l'éducation nationale aussi. Enfin, j'ai l'impression que c'est une thématique qui touche forcément tous les milieux puisque les personnes LGBTQIA+, sont partout, tirer la menace, mais on est dans la vie de tous les jours, quoi.
Et c'est quoi les questions qui reviennent le plus?
Alors, il y a beaucoup de questions, au-delà même des droits, en termes de terminologie, donc du lexique, entre guillemets, qu'est-ce que ça veut dire déjà LGBTQIA+, comment parler aux personnes trans, comment accueillir les personnes LGBTQIA+, dans le cadre de nos travaux, par exemple, je ne sais pas, dans un cabinet de soignants ou au sein de l'éducation nationale, quelle est la législation par rapport au changement de prénom, par rapport au fait que ce sont des mineurs, souvent les élèves. Donc il y a des questions à ce niveau-là. Il y a des questions aussi de bénéficiaires, hein, de justiciables qui se demandent en termes de parentalité quels sont les tenants et les aboutissants quand on est une personne LGBTQIA+, comment faire famille, comment accéder à la parentalité. Donc c'est des choses qui sont... Enfin, c'est vraiment des questions qui sont assez larges et qui dépassent, entre guillemets, le droit au point de vue législatif. Donc on avait une avocate spécialisée ce matin, Maître Lucot, qui a son cabinet à Lyon et à Avignon, qui est venue nous faire un énorme topo juridique autour des droits des personnes LGBTQIA+, et des questions de parentalité. Au sens large, comment on peut faire famille en fait en étant une personne LGBTQIA+, et vraiment sur le volet légal. Donc comment avoir des enfants quand on est une personne trans, comment avoir des enfants quand on est par exemple un couple lesbien, et comment ça marche la reconnaissance de cet enfant, et toutes les questions autour de la filiation des enfants nés de couples LGBTQIA+, en fait.
Parce que c'est vrai que quand on dit LGBTQIA+, comme ça, comme si c'était un seul mot, on a l'impression que ça peut potentiellement homogénéiser, alors qu'en fait, c'est des situations aussi juridiques qui sont très différentes les unes des autres.
Absolument, il y a des lois qui sont maintenant assez claires sur les couples lesbiens au niveau de la filiation des enfants. On a quelques lois ou quelques pistes en tout cas pour les couples homosexuels hommes, du coup pour les couples gays et pour les personnes trans c'est encore autre chose. Donc effectivement selon qui on est, notre vécu, notre orientation sexuelle ou notre identité de genre, ça change pas mal la manière dont on peut devenir parent aujourd'hui en France, en Europe et à l'international.
Et après l'intervention de Maître Luco le matin, le colloque s'était poursuivi avec deux ateliers l'après-midi proposés par le Planning Familial de Lozère et SOS Homophobie 34, des ateliers de sensibilisation à destination des professionnels auxquels j'ai pu assister.
Souffrance psy, LGBT-phobie, lesbophobie, être une personne alliée, gouine, mégenrée, infantilisation, transphobie.
Ok, merci. On pourrait parler sur tous les mots pendant très longtemps, parce que voilà, tout le monde ne les aurait pas mis là, mais bon, voilà, il y a certains mots qu'on peut mettre à plusieurs endroits. Du coup, est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir déjà sur des mots ?
S'il vous plaît, en fait, moi, il y a des mots comme dead name, je sais
dead
pas
name.
La signification.
Non. Est-ce que quelqu'un veut essayer d'expliquer ce que c'est ?
Bah, littéralement, c'est un nom mort, mais ouais. Bon, après, ça veut dire c'est le nom qu'on n'utilise plus, j'imagine.
C'est le prénom que nos parents nous donnent et c'est du coup l'ancien prénom qu'on porte quand on décide de transitionner, de changer de prénom.
Non, c'est très bien là. Oui, parce que ça pourrait être à identité de genre, mais ça peut être aussi à violence et inégalité parce que justement, souvent, il y a des personnes qui vont demander le dead name aux personnes trans qui ont choisi leur prénom. Et c'est vécu comme une violence, parce que c'est souvent répétitif, ça nous rappelle à une identité qu'on nous a attribuée, mais avec laquelle on n'était pas d'accord. Et on parle aussi de prénom de naissance, parce que tu disais prénom qu'on nous a donné, en fait, on nous l'a donné, mais on ne l'a pas choisi.
Je m'appelle Marielle, et je travaille au planning familial.
Donc là, on sort d'un atelier que tu as donné dans le cadre de cette journée consacrée aux droits des personnes LGBTQIA+. Tu peux nous présenter le concept de ce qui s'est passé ?
Alors, bon, on est intervenu avec ma collègue Léna pour le CDAD. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Nous, l'intervention qu'on a proposée, c'est une intervention d'une heure qu'on fait avec tout type de professionnels. Ça pourrait être tout type de public, d'ailleurs. Et j'explique le concept, voilà. Donc en fait, on travaille sur le vocabulaire, parce que nous, ce qu'on pense, c'est que le vocabulaire autour des questions LGBT, QIA+, ce qu'on pense, c'est que un des premiers pas pour mieux comprendre les personnes, on va dire, minorisées, pour mieux comprendre leur vécu et leur expérience, c'est de connaître le vocabulaire qui est commun à ce groupe-là. Et donc, on a plein de mots, ça va de... il y a plein de mots, ça peut être mégenré, personne transgenre, transition, butch, femme, gwyn, lesbienne, HSH, bon, plein de choses comme ça. Et donc ça, ce sont tous les mots, on en a à peu près une cinquantaine, et on doit les placer, on forme des petits groupes de 4-5 personnes, chaque petit groupe reçoit des cartes, et des cartes vocabulaire, et doit aller placer les cartes, les mots dans les familles correspondantes. Les familles, donc, on a corps, orientation sexuelle, expression de genre, lutte et discrimination.
Parmi les publics auprès desquels vous intervenez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout familiers avec ce vocabulaire, avec ces mots-là.
Mais globalement, ce qu'on observe quand même, c'est que sur un groupe, par exemple, on était 17, je pense, c'est l'éducation populaire, donc en discutant les uns les unes avec les autres, on se rend compte qu'on a un savoir collectif qui est assez dense et on arrive quand même à avoir pas mal de définitions. Voilà, c'est l'intelligence collective, quoi. Après, individuellement, on sait pas trop, quoi. Il y a des gens qui savent pas grand chose, mais tant mieux, c'est bien aussi. Ça permet aux gens qui savent beaucoup de partager leur savoir.
Et donc, avec le planning familial 48, quelles sont vos missions concernant ces questions des droits des personnes LGBTQIA+ ?
Eh bien, déjà, on a une permanence d'accueil où on peut recevoir tous les mercredis après-midi les personnes concernées ou aussi leurs proches, leurs familles, tout simplement pour parler de leur vécu si elles en ont envie.
Amende,
ouais. Après, on peut se déplacer à Florac, à France Service. D'ailleurs, on a une collègue à nous qui fait des permanences parfois le jeudi à France Service. Et un lien aussi avec Quad 9 aussi. Après, on peut prendre rendez-vous à n'importe quel moment quand une de nous, quatre, on est quatre salariés, et quelques bénévoles à pouvoir faire des entretiens, alors on peut se déplacer, nous, pour aller voir les personnes, ou les personnes peuvent se déplacer à notre local pour venir nous rencontrer. Il y a aussi les parents, parents d'ados surtout, mais pas que, il y a des parents aussi d'adultes qui font leur coming out assez tardivement, que ce soit coming out trans ou sur des questions d'orientation sexuelle ou les deux, et qui ont besoin aussi d'un accompagnement pour avoir un espace de parole aussi. Et voilà, et on est beaucoup en lien avec l'association Tapage, une asso LGBTQIA+ en Lozère, hein, queer. Et du coup, on travaille ensemble régulièrement sur aussi ces questions-là. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est de dire que, en fait, les personnes ont besoin de parler. Parfois, c'est pour des questions de discrimination, d'information, d'orientation, etc. Et parfois aussi, c'est aussi parce que ça va bien. Et parce que souvent, on a l'imaginaire que les personnes LGBTQIA+ ne vont pas bien. Si elles ne vont pas bien, c'est parce qu'il y a de la transphobie, de l'homophobie, d'LGBTphobie. Mais ce n'est pas... C'est pas intrinsèque à une personne, elle ne va pas mal parce qu'elle est LGBTQIA+. Voilà.
Quiero ser más animal que una perra. Quiero darte que facer de guerra. Quiero probar la mi atracción animal. Quiero saber cómo lo fago. Fago lo tradicional. De puntos no mando mal. Vémonos en el filando moreno. Doyte mil vueltas, chaval. Siente cuando tenga fame, bebe cuando tenga sede. Voy a llorar la romería, no saber cuándo volver. No ves que pel mes de mayo, les va que salen al toro. Mira que ya acabó abril, moreno. Ándate al loro. Bailador que estás bailando en un desierto pel medio. Tienes el brazo muy corto, no vas a llegar a coyelo. Que si quieres JJ, que si fandango, fandango. Si quieres un ajechao, aquí en el bolso lo traigo. Si quieres baile, toma baile, hasta que se rompa el suelo. Que si rompen los zapatos moreno, pasotan los zapateros. Venga baile, venga fiesta y hasta que se rompa el suelo. Que si rompen los zapatos, pasotan los zapateros. Anoche soñaba yo que verdad me parecía, que daba rostro con rostro su cara junto a la mía. ¿Qué me importa? Me despierte las horas del campanario. Si cuando abro los ojos siempre te veo al mi lado.
C'était le titre « Masse animale » de l'espagnol Rodrigo Cuevas, l'artiste le plus queer des Asturies, région montagneuse du nord de l'Espagne, un musicien génial qui s'empare du folklore de sa région natale, dans laquelle il vit toujours aujourd'hui, qui mêle la musique traditionnelle des Asturies à des sonorités très actuelles, une proposition artistique à la fois queer et rurale, tout en flamboyance et en sensualité. Et dans une interview au journal Zebulin, qui date de 2023, le journaliste lui demande pourquoi un jeune artiste queer né dans les Asturies Asturie a choisi de vivre en milieu rural plutôt que de s'installer dans une grande ville où l'on pourrait imaginer qu'il y a plus de liberté. Et Rodrigo Cuevas lui répond « C'est tomber dans les préjugés de penser qu'il y a moins de liberté à la campagne qu'à la ville, parce que j'ai justement vécu le contraire. Dans la ville où je suis née, j'ai beaucoup souffert de harcèlement et d'insultes en raison de ma sexualité, alors que dans le village de ma grand-mère, situé dans les montagnes de la région de León, une zone aride et loin de tout, je n'ai jamais été insultée parce que je suis pédée. Donc, depuis tout petit, je me sens beaucoup plus en sécurité dans le monde rural qu'urbain. Et quand adulte, j'ai fait le choix de m'installer dans un village. Cela s'est confirmé, je suis enchantée d'y vivre et j'y ressens toute la liberté du monde. »
Midi et des poussières.
Et je suis ravie d'accueillir dans ce studio Corinne Lamarche. Bonjour Corinne.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Alors Corinne, toi tu es documentaliste et assistante de communication à l'Institut Agro de Florac.
Oui, tout à fait. Et notamment des fois j'interviens dans des formations et je fais partie du service ressources et dynamiques collaboratives où nous travaillons sur le numérique, l'IA, les outils collaboratifs, la coopération.
Et tu es venue aujourd'hui parce que tu avais à cœur de rappeler un petit peu certaines missions de l'Institut Agro et nous partager quelques actualités qui arrivent.
Oui, ben voilà, vous parlez un peu de l'Institut Agro Campus de Florac qui, bon, certains le savent, avant, en 1970, c'était le centre d'expérimentation pédagogique où le CFPPA aussi était en lien avec le CEP, était dans les mêmes locaux. Puis ils ont été séparés, hein. Maintenant le CFPPA est à côté de la gare. Et en 2007, nous avons fusionné et nous sommes passés dans l'enseignement supérieur avec Supagro Montpellier. Et en 2021, nous avons fusionné avec Rennes, Angers et Dijon et nous sommes devenus l'Institut Agro. Donc voilà, beaucoup de mouvements dans notre histoire en tout cas, mais dans le fond et sur l'éducabilité et la pédagogie avec les lycées agricoles. Donc en fait, on a deux missions. On a une mission de l'appui à l'enseignement technique agricole, c'est-à-dire qu'on accompagne le lycée dans différents projets, que ce soit sur, par exemple, les élèves délégués, sur la cantine, la loi Egalim. Enfin, on a beaucoup de projets qu'on mène avec eux. Et on forme aussi les profs, les enseignants, mais les personnels aussi, les infirmières, les CPE, de tous les lycées agricoles de France, donc qui viennent en stage à Florac pour 3-4 jours. Sur différentes thématiques. Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur quelques thèmes des stages qu'on leur propose. Mmh. Et une autre mission qui est liée à l'enseignement supérieur. Et donc, nous accueillons deux licences professionnelles. La licence pro gestion agricole des espaces naturels ruraux et la licence professionnelle coordination de projets en éducation à l'environnement et au développement durable. Donc, bon, dans l'année, vous avez bien vu aussi les étudiants qui sont au Festival de la Soupe et qui participent à pas mal d'associations. Et nous accueillons aussi depuis 2 ans deux services civiques internationaux qui se sont aussi un peu manifestés dans la ville pour des différentes actions.
Oui, c'est vrai que les licences pro, on les connaît assez bien. Enfin, on sait que c'est ce que propose l'Institut Agro, mais on connaît moins ce que tu as évoqué, en effet, de l'accompagnement dans les lycées agricoles finalement autour de Florac.
Voilà, donc c'est vrai que c'est les lycées agricoles de toute la France, hein. Donc notamment là je vous donne 2 exemples sur des projets qu'on accompagne. Un c'est le projet Colcopéa qui vise à révéler le rôle essentiel des coléoptères, les bousiers qu'on appelle généralement, dans la préservation de la biodiversité des sols. Et donc là il y a 40 établissements d'enseignement agricole, des enseignants, des élèves, des chercheurs qui collaborent à ce projet pour comprendre et valoriser les services écosystémiques rendus par ces coléoptères coprophages, qui sont les véritables alliés de la fertilité des terres et de l'agroécologie. Un article est paru en 2025, en octobre, la revue Biodiversité des clés pour agir, où il y a un article justement sur ce programme Colcopéa, qui a pris une grande ampleur.
Il y a un autre projet qui s'appelle Climaterra aussi, que vous menez, où vous accompagnez 5 établissements.
Voilà, pour qu'ils soient démonstrateurs et qu'ils deviennent un interlocuteur technique et pédagogique sur le thème du changement climatique sur leur territoire et au-delà avec d'autres lycées agricoles. Voilà, donc c'est le cadre de la mission d'appui à l'enseignement agricole. C'est vrai que c'est pas tout à fait clair pour la plupart des gens. Voilà, on mène beaucoup d'autres projets, mais on reviendra peut-être à partir de septembre sur des focus justement sur les différents projets qu'on mène.
Et au-delà de ça, il y a aussi tout un aspect qui est peut-être parfois aussi mal connu de l'Institut Agro, c'est qu'en fait, il est très, très ouvert au public, à la population locale.
Oui, alors déjà sur le site, on partage le jardin pédagogique avec l'école primaire d'un côté, où il y a un poulailler et puis il y a des activités pédagogiques avec les enfants. On héberge aussi le Réel 48 CPE, le CIVAM et le campus connecté aussi. Ce qui permet d'avoir une vie un peu de petit campus, quoi. C'est pas vraiment un énorme campus, mais c'est un petit campus où il y a pas mal d'activités. On accueille des événements, on propose les rendez-vous de l'Institut Agro, on propose des mini-formations et on a un CDI qui est ouvert au public.
Alors, les rendez-vous de l'Institut Agro, par exemple, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'y passe ?
Alors, au départ, on avait monté ça, c'était plutôt des conférences en visio pour les étudiants, et puis à un moment, on s'est dit, tiens, on pourrait l'ouvrir peut-être à la population locale, pourquoi pas. On a un amphithéâtre de 100 places, donc on avait la place pour recueillir du monde. Donc, certains mardis soirs, à partir de 18h, pas toujours le mardi, on essaye quand même d'avoir un rendez-vous assez régulier. À partir de septembre, en général, jusqu'en fin février, mars, parce qu'après, les étudiants partent, donc on souhaite quand même qu'il y ait un minimum de personnes présentes. Donc, on arrive à avoir une trentaine de personnes sur nos rendez-vous d'Institut Agro. Donc, c'est des conférences ou des projections débats. On en a eu une dizaine l'an dernier, à peu près, parfois deux par mois, justement. On a reçu aussi, il y a deux ans, on a eu l'honneur d'inviter Olivier Hamain à la Jeunette Verte, en partenariat avec le Parc National des Cévennes.
Tu peux représenter Olivier Hamain pour celles et ceux qui...
Olivier Hamain, c'est un biologiste et tous ses ouvrages et sa réflexion portent sur la robustesse. Mais vous pouvez aller sur YouTube ou sur Internet et vous allez retrouver vraiment ces concepts qui sont... de plus en plus repris, que ce soit dans les établissements privés, publics, dans les collectifs, dans les associations, et de réfléchir plus à de la robustesse que plus à de la performance, en tout cas.
Donc voilà, des rendez-vous sur différentes thématiques. Il y en a eu l'année dernière sur l'élevage, l'alimentation, l'agriculture, l'habitat.
Ou encore les femmes dans l'agriculture. Ouais. Et on en a eu un aussi sur, avec le PNC et l'Entente Causse-Cévennes, une projection sur le parcours d'éleveurs et d'éleveuses et de bergers-bergères. Donc il y avait un débat après et c'était vraiment très, très, très intéressant.
Et vous faites aussi des webconférences ?
On a aussi des webconférences. Alors bon, c'est vrai qu'à la base, c'est quand même le public, c'est les enseignants de lycée agricole. Mais pourquoi pas l'éducation nationale, pourquoi pas les parents ou des adultes qui seraient intéressés par les différentes thématiques qu'on propose, qui peuvent être sur le corps, le sport, le numérique, la biodiversité, le bien-être des jeunes, la coopération entre élèves et tous ces webinaires, donc. En général, un par mois aussi, on essaye, sont enregistrés et retransmis sur la plateforme épisode au pluriel tiré Cévenol pluriel tiré webinaire pluriel.fr. Voilà. Et donc la prochaine, là, qui est le 21 mai, donc c'est sur le sommeil comme un possible levier pédagogique pour mieux accompagner les adolescents. Donc vous pouvez vous inscrire, vous pouvez toujours vous inscrire pour participer et recevoir le lien de connexion. Et le prochain juin sera cuisiner et faire manger végé à la cantine.
Et il y a aussi un lieu ressource très important, un peu caché à l'intérieur de l'Institut Agro. Et donc, c'est toi qui t'en occupes, c'est le CDI.
Voilà, je m'en occupe avec Fred aussi. On est deux documentalistes à s'occuper de ce CDI. Le CDI fait partie d'un service où il y a la documentation, l'atelier audiovisuel, l'atelier informatique et la communication. On accompagne en général, notre service accompagne les équipes pour des ressources audiovisuelles et multimédia. Et depuis deux ans, on avait mené une démarche pour ouvrir un peu cet espace parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'étagères avec plein de livres partout. Et puis on s'est dit, on aimerait bien avoir des espaces un peu plus cosy parce qu'on a des BD, des jeux, donc pour pouvoir à des moments s'installer. On a aussi des ballons pour pouvoir
s'asseoir
sans avoir mal au dos. On a aussi un petit vélo aussi, donc on peut lire en pédalant. Donc c'est un mini learning center parce que c'est pas un grand espace.
Centre d'apprentissage en bon français.
Voilà, et donc on a essayé d'avoir un espace plus ouvert et plus agréable. Et cet espace, bien sûr, est pour nos étudiants et notre personnel, mais surtout, il est ouvert au public, à la population locale, Donc vous pouvez consulter sur place gratuitement, mais c'est sinon 13 euros pour s'abonner, emprunter 5 ouvrages pendant 15 jours. Profiter aussi des ordinateurs si vous n'avez pas internet, mais bon, il y en a encore, on a encore du public qui vient parce qu'ils n'ont pas internet chez eux, et on propose aussi des mini-formations en général qui sont gratuites, mais voilà, pour 13 euros de date à date, donc vous pouvez maintenant, dès demain, enfin pas demain puisque c'est férié, mais la semaine prochaine, venir vous inscrire, et ce sera jusqu'au mois de mai 2027.
Et alors, faut pas faire concurrence à la bibliothèque de Florac, mais on pourra peut-être y trouver des ressources, des ouvrages ou des revues un peu plus spécialisées, orientées nature, environnement, sciences, que dans une bibliothèque généraliste.
Oui, voilà, on n'est pas du tout concurrent avec la bibliothèque. Au contraire, en plus, on collabore un peu, c'est-à-dire qu'on a affiché la liste des périodiques qu'on avait. Il y a une petite affichette avec du QR code sur des étagères de livres qu'on peut avoir. Et on va essayer aussi de développer des liens avec la bibliothèque, mais on a quand même des axes thématiques qui sont assez spécialisés sur nos thématiques de recherche, d'action et de travail des étudiants, qui sont sur les pédagogies, la vie scolaire, l'éducation à l'environnement, les rapports homme-nature, la gestion et la protection de l'environnement, la zoologie, l'agronomie, le pastoralisme, ne sont pas forcément des sujets qu'on peut trouver à la bibliothèque. Donc que ce soit pour le collège ou d'autres organismes ou des particuliers qui s'intéressent à ces thèmes, voilà, ils peuvent venir chez nous pour emprunter d'autres types d'ouvrages que ceux de la bibliothèque. On est aussi abonné à une cinquantaine de revues, hein, donc il y a Le Monde Diplo, bien sûr, il y a la presse quotidienne, L'Âge de Fer, Village Magazine, le journal de l'animation, les cahiers pédagogiques, le courrier de la nature, voilà, et des BD aussi assez thématiques, et des jeux aussi qu'on peut emprunter, mais bon, on n'a pas beaucoup de jeux, hein, par rapport à la bibliothèque, voilà.
Et alors, c'est bientôt les vacances scolaires, est-ce que le CDI reste ouvert un peu plus longtemps? C'est quoi les horaires des dates?
Alors, les vacances scolaires de mai sont passés, donc pour l'été on sera fermé je pense à partir du 10 juillet jusqu'au, j'ai pas les dates en tête, 22 août, oui, on ferme 5-6 semaines l'été.
Ça laisse encore le temps d'aller découvrir.
Et 8 jours à Noël, donc voilà, vous pouvez quand même venir emprunter des ouvrages. Il y a aussi une particularité, c'est qu'on est aussi ouvert, les organismes privés, les associations, les administrations peuvent payer une cotisation de 130 euros par an. Ils ont accès, donc le CA et les membres salariés peuvent donc avoir accès à tous ces services. Donc l'association paye 130 euros pour le CA. Et dans ces cas-là, ils ont aussi la possibilité d'enregistrer du matériel informatique, de l'audiovisuel, des ordinateurs portables, une caméra, un vidéoprojecteur, sous réserve bien sûr de disponibilité en fonction de nos stages et de nos actions.
C'est vraiment un super lieu ressource, c'est chouette d'avoir ça dans une petite ville comme Florac, d'avoir un tel espace quand même avec...
Voilà, et puis on vous accompagne aussi si vous avez besoin de faire des recherches bibliographiques ou de chercher un ouvrage dans les rayons, on est là pour ça de toute façon. Voilà. On a aussi les mini-formations, donc ça c'est des temps aussi le jeudi de 11h à midi en général. Donc c'est pas des conférences, c'est pas des cours, c'est plutôt des temps d'échange de trucs et astuces, alors la plupart du temps sur du numérique, mais on a aussi une mini-formation sur les champignons en septembre-octobre, on a eu une mini-formation sur la taille des arbres, parce qu'on a des arbres fruitiers sur notre campus, et c'est ouvert aussi si certaines personnes qui sont adhérentes veulent proposer des temps d'échange comme ça sur voilà, des pratiques pédagogiques ou autres, hein. Moi je suis ouvert à toute proposition, on peut venir me voir et on en discute. Voilà, c'est intéressant aussi parce que après ça sort sur notre newsletter, ça sort sur nos réseaux sociaux et donc on peut communiquer aussi là-dessus.
Et c'est à destination de qui ces mini-formations ?
Bah de tout le monde, hein. Après on va utiliser, bon, il y en a eu sur Canva par exemple, qui est un outil de création graphique en ligne. On a là, la prochaine c'est sur Visio, mais c'est un outil qui a été mis en place l'État, donc c'est plus à destination des agents publics d'État, mais il y en a une autre qui va avoir lieu sur LinkedIn, donc sur la com, comment communiquer avec LinkedIn, comment rester informé, comment faire du réseau avec LinkedIn. C'est un réseau social, mais qui a quand même pas mal de possibilités. Donc toute personne intéressée par ça aussi peut venir.
Et où est-ce qu'on peut retrouver le calendrier de ces formations ? Et les liens pour s'inscrire ?
Alors, normalement, vous allez sur le site cdrflorac.fr. Vous verrez, il y a plusieurs onglets. Bon, c'est pas un site internet comme on a l'habitude, parce que ça s'appelle un wiki collaboratif, un peu comme Wikipédia et tout ça. Donc, on utilise beaucoup d'outils collaboratifs. Et donc, c'est un outil qui est très facile de prise en main, donc tous les personnels peuvent changer les informations dessus, mais bon, on a quand même des rubriques, et vous pourrez trouver la liste des revues, les ouvrages, la base documentaire, et toutes les infos sur les mini-formations et les rendez-vous de l'Institut Agro.
Merci beaucoup, et là c'est bientôt l'heure du déjeuner, donc on peut aussi dire un mot justement sur la cantine de l'Institut Agro, parce que c'est un super endroit pour déjeuner.
Oui, alors la cantine justement a obtenu le label Écossaire en cuisine, niveau 3 carottes.
Bravo donc, pour ces 3 carottes.
Ouais, non mais ça c'est une belle reconnaissance pour toute l'équipe de la cuisine, Valentin, Manon, Solène, Liliana et Véro, donc qui travaillent depuis 2 ans quand même à passer. Donc en fait, c'est qu'en un an ils sont passés de 40% à 68% de produits bio. 30% des produits viennent de Lozère, comme les œufs, les yaourts ou les lentilles. Et voilà, c'est un travail considérable qu'ils ont fait et c'est une très belle reconnaissance pour nous et notre cantine où on se régale d'aller manger.
Oui, c'est délicieux, on y mange très très bien, je confirme.
Et bon, on ne fait pas concurrence au restaurant, donc y a vraiment c'est par convention, donc il n'y a pas grand monde qui peut venir manger à notre cantine.
Mais si on arrive à s'inscrire à l'avance, on peut quand même venir même si on n'a pas de convention, non ?
Ah non,
ah d'accord.
Non, c'est pas ouvert au public.
C'est très select, c'est VIP.
Oui, enfin bon, il faut que nos restaurants puissent travailler aussi à Florac.
Bien sûr. Eh bien, merci beaucoup, Corinne.
Eh bien, merci, Raphaël. Et j'espère vous voir nombreux au CDI dans les jours qui viennent.
Oui, et puis on se reverra à la rentrée pour faire le point sur tout ce qui arrivera pour l'année prochaine.
Voilà. Merci beaucoup
merci.
Et bon appétit.
Merci.
Au revoir.
Midi et des poussières.
Midi et des poussières, un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Et oui, il est en effet toujours midi et des poussières sur Radio Barthas et on est mercredi, c'est donc l'heure de parler cinéma dans cette émission en compagnie, bien sûr, de Cinéco.
Parlons ciné
avec Cinéco,
la rubrique cinéma de Cinéco,
l'association de cinéma itinérant en Cévennes. Sur Radio Barthas.
Et aujourd'hui, c'est toi Mireille qui est avec nous pour la chronique Parlons Ciné avec Cinéco. Bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous.
Alors aujourd'hui Mireille, tu nous présentes un film irakien qui s'appelle Le gâteau du président.
Oui. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez que le mois dernier, on avait présenté Le retour du projectionniste avec un jeune réalisateur de l'Azerbaïdjan. Là, c'est un jeune réalisateur irakien qui a la particularité d'avoir grandi dans le sud de l'Irak pendant la guerre, qu'on avait appelée la guerre Irak, quand l'Irak avait, Saddam Hussein avait envahi le Koweït. Donc il a vécu son enfance, c'est important le mot enfance, on va voir pourquoi, il a vécu son enfance en Irak pendant cette guerre, puis ensuite il est parti faire des études aux États-Unis, même professeur, et il est revenu en Irak, à Bassora et à Bagdad, pour faire son premier film. Et ce premier film, Le gâteau du président, eh bien, il a eu la chance et même l'honneur d'avoir la caméra d'or au Festival de Cannes l'année dernière, qui récompense le meilleur premier film. Donc, c'est important pour le cinéma irakien, on en parlera tout à l'heure, qu'il ait reçu un prix à ce festival. Voilà. Et en plus, dernière chose pour ce réa, il est soutenu par Chris Columbus, par un réalisateur-producteur, qui est quand même le réalisateur des Gremlins. On avait passé Gremlins il n'y a pas très longtemps à Cinéco. Maman, j'ai raté l'avion, Madame Boutoyer. Donc, c'est un producteur qui l'a soutenu et qui a, je pense, de l'argent pour le soutenir.
Tu évoquais donc la guerre entre l'Irak et le Koweït, c'était en 1991, et donc l'histoire du film se déroule pendant cette période-là.
Exactement pendant cette période, sous une dictature féroce de Saddam Hussein, les plus anciens comme moi s'en souviennent. Et l'histoire, c'est une écolière qui s'appelle Lamia, qui est tirée au sort et qui est désignée pour confectionner le gâteau d'anniversaire de Saddam Hussein. Et donc, le défi, c'est de trouver tous les ingrédients de ce gâteau pendant l'embargo américain, pendant la guerre et dans un régime particulièrement sévère, même féroce. Voilà.
Et c'est tiré de la propre expérience du réalisateur, n'est-ce pas? Il avait lui-même été cet écolier tiré au sort.
Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il veut, lui, ce qu'il veut faire, c'est montrer des absurdités. Son film, il est en même temps grave, mais en même temps humoristique, parce que dans l'absurdité, il y a l'ironie. L'absurdité, c'est par exemple, donc dans ses souvenirs d'enfance, on est tiré au sort. Qu'est-ce qui se passe? Pour ne pas être tiré au sort, on a des stratégies, en fin de compte. On peut s'absenter, on peut se faire porter pâle et rester à la maison. On peut aller aux toilettes avant le tirage au sort pour ne pas mettre le petit papier dans la boîte. On peut aussi être tiré au sort, et là, ça devient plus tragique. Il a cette anecdote dont il parle dans ses interviews. Un enfant qui échoue, qui a échoué, qui a été tiré au sort et qui a échoué pour faire le gâteau, qui a échoué, et qui n'a pas pu préparer le gâteau. Et cet échec lui a valu l'exclusion de l'école, et lui a valu ensuite d'être enrôlé dans l'armée, et puis il en est mort. Donc c'est pour ça qu'on est sur toujours deux registres, le registre très réaliste de cette histoire de cet enfant qui va aller chercher des ingrédients, et puis un autre registre dont on peut aussi parler, je pense, et qui est intéressant.
Les acteurs de ce film, notamment la petite fille qui joue Lamia, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Alors elle s'appelle Banin Ahmad Naïef. Elle a été castée, comme on dit, avec des centaines d'autres enfants. Elle a été trouvée à 2 semaines du tournage. Alors, je réexpliquerai peut-être tout à l'heure les conditions de tournage qui sont un peu rocambolesques en Irak en ce moment. Et voilà. Et puis, il y a aussi un petit garçon qui a été casté aussi, qui est son ami, qui l'aide justement à trouver cette quête dont on pourrait parler, je pense.
Et juste pour rester un instant sur la comédienne, justement, elle n'était pas comédienne.
Ce sont des non-professionnels. Il n'y a pas encore, je suis pas allée en Irak, hein, mais il n'y a pas encore en Irak une structure comparable à nos structures occidentales. Si on veut aller tourner un film à Montpellier, on a ce qu'on appelle la Commission Film d'Occitanie, de l'Agence culturelle occitane. Et là, on va s'adresser à un monsieur qui s'appelait Martin, qui va nous trouver des techniciens, qui va nous trouver un chef opérateur, qui va nous trouver un régisseur, etc. Là, c'est pas pareil. On est dans des cinémas en Irak, où pendant la guerre, le cinéma a été tué, les cinémas ont fermé, et toutes les équipes ont été complètement dispersées. Il y avait un cinéma avant irakien, mais un cinéma que j'appellerais un peu pompier, conservateur, lié au régime. Et ça n'a rien à voir avec le cinéma d'aujourd'hui, un cinéma qui est esthétique, qui est un cinéma de point de vue, qui est un cinéma de recherche, qui est un cinéma d'histoire, qui est un cinéma de scénaristes qui ont écrit une histoire, et sans censure. Voilà, ça n'a pas rien à voir. Donc il a eu du mal, dans le cadre du tournage, à trouver cette petite jeune fille, et il a eu du mal aussi à trouver des équipes. Mais il l'a fait en Irak quand même.
Et tu disais que oui, le tournage avait été rocambolesque, tu peux nous en dire plus?
Alors, par exemple, il avait eu du mal à trouver des techniciens. Il y a une très belle scène au tout début, je ne vous raconte pas l'histoire, hein. Au tout début du film, il y a une scène sur un bateau. L'enfant, elle part à l'école en bateau. Il faut que d'autres enfants arrivent en bateau aussi. Il faut aussi des techniciens pour, cadrer tout ça. Et bien, il n'avait pas assez de techniciens pour cadrer cette scène. Donc, il s'est débrouillé. La scène est quand même magnifique. Autre anecdote aussi de tournage, le fait qu'on demande une autorisation, bon, ça se fait partout, hein, une autorisation de tournage dans une artère, dans une ville, et il n'avait que seulement 2 heures pour faire le tournage, mais il a mis aussi, par exemple, des pancartes de Saddam Hussein de les années 90. C'était une dictature et c'était le culte de la personnalité. Mais les gens avaient peur et sont allés parler aux autorités en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a encore un dictateur qui va revenir, etc. » Ce sont des anecdotes, mais ça montre aussi le côté encore fragile, peut-être, d'une démocratie, et le côté fragile d'un tournage.
Et alors, pour revenir un petit peu sans trop dévoiler, mais donc voilà, cette jeune écolière, elle, pour faire son gâteau, elle se lance dans une véritable quête.
Oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça que là, on peut, je répète, voir le côté très réaliste de l'affaire. Bassora, c'est une ville du sud de l'Irak. Ils filment Bassora des années 90. Il y a l'embargo, donc on ne trouve pas les ingrédients. Mais moi, j'ai pensé à une autre lecture, moins réaliste, hein. C'est une lecture comme une quête magique. Ce gâteau, c'est un objet magique. Il y a des fragments qui sont dispersés dans toute la ville et on va avoir des amis pour les rassembler, comme un peu la quête du Graal, et on va avoir des ennemis qui vont nous empêcher de reconstituer le gâteau pour ensuite des ingrédients, pour ensuite le faire. Et dans sa quête, elle a donc ce petit ami, ce petit jeune garçon qui est absolument adorable, qui l'aide. Mais il y a aussi des ennemis. Il y a notamment un marchand qui, à un moment donné, lui promet de la farine. mais au lieu de lui promettre de la farine sans aucune intention, il l'emmène dans un cinéma porno. C'est juste une petite anecdote, mais qui montre le côté noir aussi, le côté obscur de ce régime, le côté corrompu, le côté compliqué de ce régime à cette époque-là. Donc je trouve intéressant ces deux dimensions, le côté hyper réaliste et les absurdités d'une dictature, mais aussi le côté humaniste, le côté poétique, un film comme ça qui nous montre un pays qui était quand même en déshérence à l'époque.
Et un film d'autant plus précieux que c'est rare de voir du cinéma irakien sur les écrans de cinéma et d'autant plus sur les écrans Sevenol.
Ah oui, c'est ce que je vous ai dit, il y a très peu. En ce moment, alors il y a eu des disparitions de cinéma, des destructions de cinéma, bien sûr, et des arrêts de films. Et en ce moment, ça revit un petit peu, et d'ailleurs le réalisateur vit là-bas, même s'il enseigne aussi à New York, mais bon, ça c'est normal, c'est logique. Mais il y a un nouvel opérateur qui vient d'ouvrir 12 salles à Bagdad. Donc moi, je me dis qu'il y a de l'espoir.
Merci beaucoup, Mireille, pour cette chronique. Et voilà, donc il faut aller voir ce film qui sera très bientôt sur les écrans de Cinéco. Merci.
À bientôt.
On écoutait à l'instant le musicien irakien Jafar Hassan avec ce titre Front My Hope qui figure sur la compilation Shubi Shubi éditée par le génial label Sublime Frequencies, une compilation unique en son genre qui regroupe des morceaux pop et folk irakiens glanés en Irak et dans les pays voisins sur de vieilles cassettes audio, d'où le son un petit peu abîmé mais magnifique, n'est-ce pas ? Et donc ce titre de Jafar Hassan était aussi paru sur son disque Let's Sing Together sorti en 1970. Originaire du Kurdistan irakien, Jafar Hassan était l'un des porte-parole du mouvement socialiste irakien avant l'arrivée au pouvoir de Saddam Hussein. Saddam Hussein, donc, à qui la jeune héroïne du film Le gâteau du président doit confectionner un gâteau. Et donc, ce film, proposé par Cineco, Le gâteau du président du réalisateur irakien Hassan Hadi, sera à découvrir sur les écrans Sevenol dimanche à 20h30 à Vébron. Et puis, il faudra attendre le mois de juin, le 3, pour le voir à Florac à 18h ou le 11 juin à 21h à Saint-Enimi. Toutes les horaires sont à retrouver sur le site de Cineco, www.cineco.org. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. Bonne suite de journée sur le 107. Salut.
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi
et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement, c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.